Bien, on va démarrer, on va laisser les derniers arrivants s'asseoir. D'abord, je vous souhaite une bonne année 2013 pour ceux que je n'ai pas encore vus, avec donc mes meilleurs voeux. Surtout beaucoup de santé, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important au finish. Et donc, le cours d'aujourd'hui qui est intitulé Couplage chimie procédé, donc des voies d'accès aux matériaux multi-échelles, va être découpé, je dirais, en deux parties. Au début, je vais vous parler d'approches de construction de matériaux de type ascendante, plutôt bottom-up, sauf les deux premiers exemples. Et ensuite, je vais passer à des couplages où on va démontrer l'intérêt de coupler une chimie douce et des procédés un petit peu plus sophistiqués ou des procédés qui sont, j'irais, couramment utilisés en physique. Alors tout d'abord, je vous rappelle les deux approches, du monde nanoscopique et du monde macroscopique. Donc, il y a une approche qui est dite montante et l'autre qui est descendante, hein, en anglais top-down et bottom-up. Donc, les deux approches se différencient finalement par la méthode que l'on utilise pour arriver sur des matériaux, des nanomatériaux ou des mésomatériaux, hein, en partant soit de composés déjà constitués que l'on fragmente, soit en partant de molécules ou de nanoparticules, typiquement déjà dans une taille nanométrique pour construire des objets nanostructurés ou mésostructurés. Alors, les modes de synthèse des nanobriques, on en a pas mal parlé au cours du deuxième cours. Et donc, en fait, essentiellement, bon, je vous ai dit, j'ai essentiellement développé des méthodes ascendantes de type bottom-up, mais je voudrais vous rappeler finalement deux ou trois modes de synthèse de type top-down qui ne seront pas en fait discutés par le conférencier qui va suivre dont la conférence va suivre ce cours. Donc typiquement des modes de synthèse de type top-down pour faire des nanobriques, il y a la mécanosynthèse et les méthodes basées sur l'ablation laser dans un liquide. Alors la mécanosynthèse, c'est tout simplement d'utiliser finalement un matériau bulk dans un mortier, un broyeur à galets, et on broie donc le système en jouant également sur les additifs de façon à le morceler pour obtenir en fait de la matière nanodivisée. Alors ce que vous voyez ici, c'est simplement la transformation d'un bloc d'oxyde de fer magnétique, une magnémite, en nanoparticules. Alors bon, évidemment, c'est relativement facile comme démarche. Par contre, la qualité, je dirais, des nano-objets obtenus est souvent, je dirais, un petit peu moins bonne que par les approches bottom-up, en particulier la polydispersité des systèmes. Sinon, bon, le second exemple de méthode top-down que je voudrais simplement illustrer ici, c'est les méthodes basées sur l'ablation laser de matériaux dans un liquide. Donc, on utilise finalement un laser picoseconde et donc l'énergie de ce laser pour finalement fractionner, corroder par la surface, je dirais, un matériau. Ce que vous voyez ici, c'est simplement une petite plaquette d'or qui est dans un liquide. Et après irradiation par un laser, eh bien, vous commencez à former en fait des nanoparticules d'or. Et ce que vous voyez, la solution se colore en pourpre ou en rose, simplement parce que vous faites des nano-objets d'or et donc que vous avez une réponse, comme j'ai déjà commenté dans les leçons précédentes, vous avez une réponse placement qui se fait dans la partie visible du spectre électromagnétique. Et donc les objets que l'on obtient, vous voyez, ce sont à nouveau des nanoparticules d'or. L'échelle est ici, c'est une vingtaine de nanomètres. Ce sont des méthodes qui sont finalement un peu à la fois lourdes parce qu'on utilise des moyens physiques, mais également simples finalement, hein. Mais vous voyez, à nouveau, on a des systèmes qui sont relativement dispersés au niveau des tailles, donc une certaine polydispersité en taille. Et vous verrez en particulier dans les derniers cours, et en particulier en troisième cours, comme vous avez vu d'ailleurs, tout comme vous l'avez vu dans le cours numéro 2, qu'aujourd'hui les chimistes savent fabriquer en fait des nanoparticules avec un contrôle sur la calibration qui est bien meilleur que par ces techniques-là. Bon, alors le dernier point que je voulais illustrer, ce sont les modes de synthèse, je dirais, bottom-up, mais dans lesquels on fournit une certaine énergie. Bottom-up, puisque l'on part, vous voyez, de précurseurs moléculaires qui peuvent être des alkoxydes ou des colloïdes. On utilise finalement une pyrolyse à la flamme pour créer ces systèmes nanoparticulaires. Donc c'est toujours une bottom-up puisqu'on part de petits objets pour en former des plus gros, mais globalement, il y a quand même un coût énergétique. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a de nombreux matériaux, de nombreux nanomatériaux qui, au niveau industriel, sont préparés via ce genre de méthode type pyrolyse de flamme, qui est relativement facile à mettre en œuvre et qui permet de produire de grandes quantités. Alors aujourd'hui, je vais plutôt centrer mon exposé sur les procédés et sur leur couplage en fait avec tous les aspects, je dirais, de la chimie douce. Et en particulier, je vais vous parler de réactions de condensation, de précipitation. Et en particulier, je vais utiliser ces modes de synthèse de matériaux et vous montrer l'intérêt de les coupler avec des procédés. Et donc, je vais me restreindre, comme je vais vous le dire, à des aspects chimie douce, à l'hydrolyse et polycondensation, coprécipitation, formation de gel et de sol-gel, et l'utilisation de ces réactions de polymérisation minérale en présence d'agents structurants qui permettent donc de structurer l'espace réactionnel pour former des mésophases ou des matériaux mésoporeux. Donc, je vous rappelle simplement ce qu'est une polymérisation minérale. Donc, on part d'un précurseur moléculaire réactif. On active en fait sa réactivité en rajoutant soit de l'eau, soit en changeant le pH pour former des blocs réactifs qui ensuite s'associent, puis polycondensent pour former des réseaux. Des réseaux de silice, si l'on choisit un précurseur à base de silice, donc à base de silicium. Alors, très facilement, ces précurseurs peuvent être modifiés en leur ajoutant initialement à peu près n'importe quelle fonction organique que vous pouvez avoir dans la tête. Pour vous voyez, bon là, j'ai cité les fonctions organiques les plus triviales et les plus courantes. Et donc, on peut, de la même façon, construire des matériaux hybrides en suivant ces procédés de chimie douce. Donc, voilà ce que ça donne globalement. Si je fixe une fonction de façon covalente sur mon système, je vais me retrouver avec un matériau qui va être un composite à l'échelle moléculaire porteur de fonctions organiques. Alors, les modes de synthèse que l'on utilise les plus classiques, ce sont bon, des modes, je dirais, en piluliers, à température ambiante, ou bien des modes où on doit chauffer avec des modes de chauffage conventionnels, vous voyez, typiquement le réacteur en ballon avec des possibilités d'injection. Et également, se développent depuis un bon nombre d'années maintenant des modes de synthèse hydrothermale ou solvothermale, où vous pouvez chauffer votre système réactionnel sous pression autogène. Et plus récemment, je dirais dans les 10 dernières années, les micro-ondes ont énormément impacté ce domaine, non seulement dans le domaine de la cuisine, comme vous le connaissez tous, mais également dans le domaine de l'élaboration des matériaux. Et en particulier, les systèmes micro-ondes, l'avantage, ça ce sont des systèmes que l'on développe de façon assez importante au sein du laboratoire. Il y a un certain nombre d'avantages à utiliser les modes de chauffage micro-ondes. Bon, d'une part, on chauffe directement le milieu réactionnel, ça va beaucoup plus vite. On peut s'amuser beaucoup plus dans les problèmes de dissociation, nucléation, croissance. Il y a des effets micro-ondes, on obtient des phases qui sont non accessibles par les modes de chauffage classiques. Et également, le fait que en fait, le chauffage micro-ondes va être sensible finalement à la polarité du milieu, ça va permettre de chauffer plus localement certains objets par rapport au solvant ou le solvant par rapport aux objets ou une surface. Et donc ça ouvre finalement des tas de perspectives qui ne sont pas encore exploitées, mais qui vont l'être. Alors les paramètres, je dirais, de procédés sur lesquels on peut jouer, bon, il y a le chauffage, l'agitation, les modes de mélange, les modes d'injection qui peuvent être simples ou multiples, la façon dont on va générer les précurseurs réactifs, tout simplement, bon, par voie thermique, en utilisant des bases retard, des photons, des ultrasons et des micro-ondes. Et il y a donc des paramètres de procédés qui paraissent peu importants, mais qui vont être finalement capitales dans le résultat du matériau obtenu. Alors, justement, le point que je voudrais souligner, c'est justement l'importance du procédé dès qu'on élabore des matériaux. Et on ne peut pas s'arrêter, lorsque l'on fait des matériaux, à une composition chimique ou à une poudre avec une caractérisation. Il faut aller au-delà. Et justement, le couplage entre chimie et procédé, c'est ce qui fait finalement la qualité et les propriétés d'usage d'un matériau. Alors, juste un exemple. Vous voyez, ça, c'est typiquement des tétraèdres de SiO4. Qui s'enchaînent et qui forment en fait des réseaux de silice. C'est la même formule, c'est le même mode d'enchaînement au premier ordre. Au second ordre, bien, vous avez des boucles qui peuvent être différentes, mais au finish, eh bien, vous obtenez, vous voyez, des matériaux qui ont tout à fait des états différents de la matière et qui vont avoir forcément des propriétés différentes, d'une de sable, système cristallisé en quartz, les vitrages des bâtiments ou bien ces coques de silice biogénique qui sont en fait les coques de protection des diatomées, qui sont des algues unicellulaires que l'on trouve dans le plancton. Donc l'importance, donc, la composition chimique, bien entendu, mais le process est vraiment au cœur, finalement, du domaine des matériaux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler non pas de toutes les stratégies utilisées pour synthétiser des matériaux, hein, donc les techniques sol-gel, ça je vous avais déjà présenté en fait toutes ces stratégies, mais je vais plutôt centrer la plupart, je dis bien la plupart de mes exemples, soit sur la polymérisation d'alkoxyde pour former des nanocomposites, soit la polymérisation d'alkoxyde ou de sel, mais dans des milieux dans lesquels on va utiliser finalement un tensioactif pour partitionner l'espace réactionnel et pour obtenir, vous voyez, des méso-organisations qui vont permettre de structurer le milieu réactionnel et d'obtenir, je dirais, in fine, des matériaux nanostructurés. Alors, je vous rappelle la séquence chimique qui permet d'obtenir un matériau mésoporeux en poudre. Donc, on part de précurseurs moléculaires, des précurseurs de silice, qui peuvent être minéraux ou hybridés, avec ce petit point orange qui représente une fonction organique. On travaille dans des milieux où il y a des surfactants, typiquement du savon. Et donc, via un processus d'auto-assemblage coopératif, on minéralise finalement les micelles qui se forment et qui s'assemblent sous forme de cristaux liquides. Donc, cette condensation, en fonction du temps et des conditions, est étendue. On encapsule finalement le réseau micellaire avec une coque de silice qui peut être purement minérale si j'utilise ce précurseur-là ou qui peut être hybridée si j'utilise ce type de précurseur-là. Et comme, quelle que soit, je dirais, la cristallinité des murs, donc cristallin ou amorphe, comme vous avez un motif qui se répète spatialement de façon périodique, qui est l'endroit où il y a un trou par rapport à l'endroit où il y a de la matière, du plein, eh bien vous avez des réponses qui sont visuelles et observables, typiquement par diffraction des rayons X, ça correspond à une structure hexagonale, et également la technique de choix pour les observer, c'est la technique basée sur la diffraction, la microscopie électronique en transmission. On voit très bien les réseaux de pores en clair et les murs que vous voyez de façon plus sombre. Alors, par ces méthodes-là, ce que l'on obtient, vous voyez, ce sont typiquement des poudres. Mais cette poudre-là, finalement, pour le même type de synthèse chimique, si je change un petit peu le procédé, eh bien, à l'arrivée, je vais obtenir la même composition chimique, mais avec des matériaux qui vont être totalement différents. Vous voyez, donc, la même fonction R, le même type de procédé. Maintenant, je peux jouer sur agitation, mode et temps d'introduction, température. Et je peux obtenir des matériaux totalement différents, vous voyez, avec des morphologies à l'arrivée qui vont être totalement différentes. Bon, là, c'est une structure plutôt hexagonale, mais c'est haute échelle micronique. Je peux obtenir des fibres hélicoïdales hybrides. Et entre là et là, c'est exactement la même préparation. Ce qui change, c'est la vitesse de l'agitation. Donc, vous voyez l'importance du procédé dans la fabrication du système. Donc, ça permet de fabriquer des poudres. Alors, évidemment, on peut également fabriquer des matériaux sous forme de film par une technique, je dirais, qui est relativement classique, qui est la technique du trempage retrait. Vous trempez finalement dans votre vin colloïdal un film, un substrat, et vous le retirez à une certaine vitesse. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de façon importante, c'est que finalement, les propriétés, les qualités de dépôt vont également dépendre de la nature du substrat, mais surtout des propriétés physico-chimiques de la solution, qui sont la viscosité, les tensions de surface, la densité, les forces capillaires. Et en particulier, on va distinguer deux régimes, le régime de drainage et le régime capillaire, et le régime qui est le plus souvent utilisé, un régime où la vitesse de retrait, vous voyez, se trouve entre 1 milliseconde et 10 millisecondes, c'est un régime qui est dépendant finalement. La qualité du dépôt dépend de l'équilibre entre le drainage visqueux et l'adhésion, qui permet en fait d'obtenir des films d'une certaine épaisseur. Et en particulier dans ce régime-là, l'épaisseur du film varie comme augmente en fait avec la vitesse de retrait. Hein. Typiquement, ça suit la loi prédite en fait par Landau-Levitch. Donc ça, c'est ce que, je dirais, 95% ou même 99% des gens utilisent pour faire des dépôts de type sol-gel. Vous avez un autre régime qui a été plus étudié récemment par l'équipe, en particulier par David Grosso et Marco Faustini, qui est le régime capillaire. Et dans ce régime-là, eh bien, vous voyez, on va beaucoup plus lentement. Typiquement, les vitesses de retrait sont de l'ordre de 0,01 à 0,05 mm par seconde. Ce régime est sous contrôle, en fait, des effets convectifs et de la capillarité. Donc c'est beaucoup plus lent, mais ça permet d'obtenir, vous allez le voir quelques exemples plus tard, des films relativement épais, avec par exemple un contrôle des dépôts colloïdaux de façon beaucoup plus optimum que par l'autre méthode. Et je vous rappelle que par exemple, lorsque vous déposez des colloïdes sur une surface, les pressions capillaires, lorsque vous déposez des particules qui sont de l'ordre de 5 nanomètres, sont énormes, de l'ordre de 100 bars. Donc ce sont des pressions qui sont très très fortes. Donc en fait, l'intérêt de pouvoir utiliser à la fois des régimes de drainage et des régimes capillaires de façon contrôlée. Alors le régime de drainage, le premier régime, ça permet de faire par tampage retrait des matériaux mésoporeux en utilisant, vous voyez, des précurseurs moléculaires très variés pour de l'alumine, de la zircone, de la silice, des métaux de transition. Évidemment, le milieu, c'est un milieu relativement doux. Généralement, c'est un milieu haut alcool avec des catalyseurs. Et les savons que l'on met en face, c'est-à-dire les molécules de tension active, peuvent être très variées, donc des systèmes cationiques neutres, des polymères à blocs avec des blocs hydrophiles et des blocs hydrophobes, ou bien des systèmes hydrophobes-hydrophiles un petit peu plus complexes. Et donc ceci permet finalement d'élaborer dans un régime de drainage des films d'une bonne qualité, mais des films qui sont in fine relativement minces. Alors dans ce genre de démarche, ce que l'on fait, c'est que l'on part d'une solution à des concentrations relativement faibles, et donc au cours du dépôt, il y a évaporation et concentration du milieu pour former finalement des assemblages de micermes, et en même temps finalement, vous avez les réactions de polymérisation qui entrent en jeu. Et donc il faut optimiser à la fois les paramètres chimiques, c'est-à-dire le contrôle de ces affaires-là, et également les paramètres de procédé, en particulier... Évidemment, la vitesse de retrait compte, mais également la pression de vapeur est très importante. Et en particulier dans l'équipe, il y a eu d'énormes développements qui ont été faits sur le suivi, je dirais, in situ par synchrotron. En même temps que vous formez le film, vous pouvez regarder les différentes étapes, l'état finalement de la matière en cours d'organisation. Et donc ça a permis à l'équipe, et en particulier à David Grosso et à ses collègues, de vraiment montrer du doigt et de pointer quels sont les paramètres importants qui permettent de contrôler finalement des films de très haute quantité, de très haute qualité. Et dans ce cas-là, bon, en particulier les échanges avec l'atmosphère extérieure comptent énormément puisque ça permet de stabiliser ou de faire des transitions de phase volontaires ou involontaires et donc de changer, de moduler les structures, d'améliorer également la reproductibilité des matériaux obtenus. Alors, suivant ces types de démarches, vous voyez, il y a des films qui ont été faits avec des compositions très variables, l'essentiel à base d'oxydes, mais des oxydes relativement simples comme la silice, ou des oxydes plus complexes comme les oxydes de titane, les oxydes de ruthénium, ou des oxydes multicationiques. Et lorsque vous balayez toutes ces familles de compositions avec un procédé bien contrôlé, eh bien, vous voyez que les propriétés que l'on attend derrière sont particulièrement intéressantes. Ça touche des domaines de catalyse, de capteurs, de l'électrochimie, des cellules, des actuateurs, bon, des domaines très très larges. Alors, en particulier, donc, ce que je vous disais, c'est que les régimes en fait, conventionnels permettent de faire des films poreux nanostructurés, mais avec un bon contrôle, je dirais, sur les épaisseurs, typiquement en dessous du micron et plutôt dans la zone d'épaisseur de 100 à 400 nanomètres. Et ça peut avoir une importance, bien sûr, de gérer une épaisseur en fonction des propriétés que vous visez. Et également, on peut faire, en conditions très diluées, des surfaces poreuses nanostructurées. Alors, les murs, je vous le rappelle, peuvent être totalement minéraux, amorphes, cristallisés ou hybrides. Hein, donc ça va dépendre en fait des traitements ou de la nature des précurseurs que l'on choisit. Et là, j'ai juste un petit exemple à vous montrer, l'utilisation de ces dépôts pour faire des films mésoporeux d'oxyde de titane. L'oxyde de titane est un semi-conducteur qui, sous irradiation UV en particulier, génère en fait très facilement des électrons et des trous. Et ces électrons et ces trous vont être utilisés pour consommer de la matière organique, pour faire ce qu'on appelle des photocatalyseurs, pour faire donc des systèmes auto-nettoyants. Et ce que vous voyez ici, ça, c'est un travail qui est relativement ancien, qui a été fait dans l'équipe. Ça, c'est la réponse en fait, du système amorphe. Ça, c'est le matériau de référence. Et ça, c'est la réponse de dégradation d'un colorant. Mais il y a les mêmes tendances, je dirais, avec des acides organiques, des graisses, donc. La réponse de dégradation en fonction du temps dans des matériaux sous cette forme mésoporeuse, donc de très haute surface spécifique, est bien cristallisée. Donc, il y a vraiment des écarts, en fait, sur les réponses photocatalytiques. Bien entendu, on peut moduler la réponse en fait de ces matériaux semi-conducteurs en essayant d'optimiser finalement cette réponse vers la partie visible du spectre électromagnétique. Et dans ce cas-là, ben, on peut utiliser en fait les mêmes films, simplement en les nitrurant, et de ce fait-là, on va avoir des réponses qui vont commencer à être intéressantes, je dirais, sur un domaine spectral beaucoup plus large. Alors, justement, je voudrais revenir sur les intérêts donc, du régime capillaire et sur toutes ses potentialités. Alors, d'une part, un régime capillaire très bien contrôlé, ça permet de l'assemblage de tout type de colloïdes, donc de faire des films relativement épais à partir de nanobriques préformées. Pardon. Ce que vous voyez ici, c'est un film relativement épais fait à partir de polymères de coordination qui sont des colloïdes, vous voyez, de ZIF, enfin, c'est un polymère de coordination à base de zinc et d'un imidazolate. Hein, et donc, on obtient facilement dans ces régimes-là, vous voyez, des dépôts colloïdaux. Et c'est vraiment la bonne technique pour obtenir des assemblages de colloïdes de très bonne qualité. Ici, ce que vous voyez, ce sont des... Pardon. Ce sont des couches épaisses de TiO2 mésoporeuse. Typiquement, on peut aller jusqu'à plusieurs microns via en fait l'utilisation de ces régimes capillaires. Et ça, c'est très important, en particulier lorsque l'on veut obtenir des surfaces, des quantités de matière organisée, par exemple pour les propriétés électrochimiques ou les propriétés photoélectrochimiques. Donc ça, c'est du TiO2. Et ce que vous voyez ici, c'est le remplissage finalement de nanocratères. Déposés, ces nanocratères sont déposés par les méthodes basées sur le drainage, mais en fait, le dépôt des petites particules d'or qui viennent remplir finalement ces nanocratères pour leur procurer une certaine fonctionnalité, voyez, peuvent être optimisés simplement en jouant à la fois sur le régime capillaire et sur les vitesses, je dirais, les vitesses de déposition. Donc, et c'est les nanocratères dont je vous viens de vous parler. Bon, finalement, vous voyez que ce sont des systèmes qui sont totalement nanostructurés, qui sont obtenus dans des conditions de très grande dilution, avec des tensions actives qui ont des propriétés hydrophiles-hydrophobes, une balance hydrophile-hydrophobe très marquée, qui permettent de créer des nanostructures de type céramique. Et vous pouvez, en fonction de la nature et de la taille surtout du tensioactif, qui est un bloc copolymère, très bien contrôler la taille du cratère, la profondeur du puits et l'épaisseur du mur. Donc ça, ce sont des travaux qui ont également été faits en grand nombre dans l'équipe. Et en fait, ces systèmes sont totalement reproductibles et présentent des stabilités thermiques et chimiques qui sont particulièrement intéressantes. Et à nouveau, on a des nanocavités que l'on peut utiliser pour les fonctionnaliser avec des métaux, des alliages, des polymères que l'on peut faire croître, tout comme les métaux, via l'électrochimie, puisqu'on a un contact direct avec le substrat, avec le dessous de ce nanofilm, peut être un substrat conducteur. Et donc voilà ce que ça donne. Ça peut donner, vous voyez, des systèmes où on ferait croître en fait des nanoparticules métalliques ou des alliages dans ces trous, ou bien des réseaux d'ultra-nanoélectrodes, parce qu'on peut jouer également sur l'espacement entre les trous pour moduler finalement les réponses diffusionnelles de ces nanoélectrodes. Et construites en céramique, elles sont beaucoup plus robustes que les céramiques traditionnelles. Et c'est intéressant parce que ça développe des possibilités du côté des capteurs, en particulier les capteurs chimiques. Alors, justement, là, ce que je veux vous montrer dans l'exemple suivant, c'est l'intérêt de coupler finalement ces approches, je dirais, de type bottom-up, de construction de nanostructures. Ça, c'est un travail récent qui a été fait par Marco et David. Et des techniques de type top-down, faites en physique, typiquement des techniques basées sur la gravure ionique réactive. Donc, vous utilisez un plasma avec des gaz très réactifs, en particulier avec des composantes fluorées, pour graver finalement un système sur lequel vous avez déposé un masque. En général, les masques utilisés sont des masques plutôt polymériques, et vous gravez par exemple des systèmes en silicium. Alors, l'intérêt d'utiliser finalement ces nanocratères comme masque, ben, je vais vous montrer deux exemples. Donc, là, à nouveau, on utilise une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on dépose sur le film, vous voyez, par trempage retrait, en présence de micelles, un mélange calcium-titane, de précurseurs de calcium et de titane, pour générer, vous voyez, des matériaux sous forme de cratères nanostructurés qui, après calcination, ont globalement la composition CaTiO3, je dirais, j'ai mis des X parce que le système n'est pas cristallisé, à ces températures-là, il est amorphe. Et donc, ça permet d'obtenir, vous voyez, des systèmes qui sont joliment nanostructurés, avec un contrôle, finalement, de l'épaisseur des murs et du cratère. Donc, ça, c'est du bottom-up. Alors, maintenant, si on utilise des méthodes basées sur la gravure ionique réactive, sachant qu'on peut moduler la composition chimique, la taille des cratères en fonction également de la taille des micelles, eh bien voilà ce que ça peut donner. Eh bien, on peut utiliser, comme je vous disais précédemment, ces méthodes pour déposer des nanomasques céramiques minéraux. Et donc, pour des perforations relativement larges et des taux de calcium élevés, en fait, le nanomasque est stabilisé par la formation d'un composé très stable qui est le fluorure de calcium, et le titane est corrodé. Et donc, vous pouvez graver finalement ces puits finalement sur des épaisseurs de 250 à 300 nanomètres. C'est ce que vous voyez ici sur cette photo. Ça, ce sont des systèmes qui ont été gravés en couplant à la fois une approche de chimie douce bottom-up et une approche de type plus physique. Donc vous voyez ce que ça donne, avec une calibration qui est pas mal du tout. 200 nanomètres, c'est l'échelle. Et voilà, donc ça, c'est le film vu dans l'autre. C'est une coupe du film. Par contre, maintenant, si vous jouez sur la taille des cratères via la chimie bottom-up, en jouant sur la nature du bloc copolymère, ou si vous changez les taux de calcium, ce que vous allez obtenir dans ce cas-là, c'est des systèmes où justement vos petites particules de CaF2, qui sont les protecteurs, qui sont les masques, vont ségréger, et à ce moment-là, la gravure va pouvoir avoir lieu partout où il n'y a pas la nanoparticule. La nanoparticule va protéger finalement le matériau de la gravure. Et ce que vous obtenez, vous voyez, ce sont des piliers de silicium de cette forme-là. Pardon. Alors maintenant, je voudrais passer à la seconde partie de l'exposé qui concerne justement les aspects qui touchent beaucoup plus aux aspects hiérarchiques. Donc le modèle utilisé au laboratoire, le modèle, je dirais, conceptuel plutôt, c'est celui des diatomées. Vous voyez, ça, c'est une coquille de silice que vous pouvez regarder à plusieurs échelles. Donc lorsque vous augmentez finalement la résolution, par microscope électronique, vous allez regarder dans la matière, dans son intimité, vous voyez que la taille des pores est de plus en plus petite. Vous voyez, j'étais à 20 microns tout à l'heure, là on est autour du micron, là on va être à 140 nanomètres, et la taille des particules qui constituent les murs, c'est typiquement de l'ordre de 10 nanomètres. Donc clairement, les matériaux de la nature, et en particulier la diatomée, que c'est un exemple qu'on aime bien développer, enfin utiliser au laboratoire, sont des matériaux à structure hiérarchique. Alors, comment aller, justement, créer une certaine hiérarchie de façon reproductible dans l'élaboration des matériaux? Alors, pour cela, on utilise des stratégies dites intégratives. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un joli mot, intégratif. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va utiliser les approches de chimie douce, avec toute leur richesse, leur versatilité, sur le choix des précurseurs, le choix de tensioactifs, et on va les coupler soit avec des méthodes lithographiques ou des méthodes, je dirais, aérosol ou autres, typiquement avec des procédés physiques, soit on va les coupler avec des systèmes, je dirais, des gabarits ou des templates plus volumineux. Je dirais, ça, je les ai mis dans l'ordre un peu de difficulté et d'intérêt. Soit on va utiliser, finalement, des bonnes recettes de la physico-chimie de la matière molle, des séparations de phases contrôlées, des micro-émulsions, de l'organogélation, des figures de respiration. Donc, je ne vais pas vous montrer des exemples de tout parce que je vous en ai déjà montré un certain nombre dans les conférences précédentes. Alors, tout d'abord, les gabarits ou templates multiples plus volumineux. Alors, il y a deux exemples que j'aime bien souligner. L'utilisation, finalement, des ailes de papillon. Bon, les ailes de papillon, typiquement, c'est un matériau qui est structuré multi-échelle. Et en fait, la couleur des ailes de papillon est associée finalement à de l'optique géométrique. Donc on peut très bien utiliser l'aile de papillon comme un gabarit multi-échelle et faire des répliques de ces ailes de papillon en déposant des matériaux minéraux, soit par les méthodes sol-gel, imprégnation, chimie douce, soit par des méthodes de type ALD ou des méthodes d'évaporation. Et donc ça va permettre de contrôler finalement, selon l'indice du matériau que l'on met, qui remplace finalement la structure de l'aile de papillon, ça va permettre de jouer en fait sur les gammes de coloration. Vous voyez, ça, ce sont des systèmes qui ont été faits avec un seul matériau, l'alumine en remplacement, mais avec des épaisseurs variables. Donc, on peut déjà balayer une certaine gamme de couleurs. Donc ça, je dirais que c'est la méthode la plus, pas facile au niveau du process, mais je dirais la plus directe, la plus évidente pour obtenir des matériaux à structure hiérarchique. Ensuite, il y a une autre méthode qui est la combinaison finalement de gabarits où on va utiliser, vous voyez, un premier moule que l'on va faire, que l'on va structurer. Ce sont des tampons de PDMS. Donc ça, on peut utiliser un anneau en porte-pièce pour créer finalement ces structures. Et dans les trous de ces structures, on va pouvoir remplir les trous avec, par exemple, des billes de polystyrène, des billes de latex qui vont venir se coller les unes aux autres pour former finalement un espèce de cristal colloïdal. Et dans les interstices à nouveau de ces billes de latex, troisième étape, ce que l'on fait, c'est qu'on va mettre finalement une solution polymérisable de type sol-gel avec un tensioactif. Et ensuite, on enlève l'ensemble par calcination. Et ce que l'on obtient, vous voyez, c'est une structure à trois niveaux. Le niveau micronique, donc contrôlé par un procédé, je dirais, type PDMS. Un niveau, je dirais, mésoscopique, qui est contrôlé essentiellement par la taille des billes de latex. Et entre les billes de latex, vous avez finalement ces nanopores, ces mésopores, qui sont dus finalement à la structuration par la combinaison de la chimie sol-gel et de tensioactif. Donc le deuxième type d'exemple, c'est combinaison avec des méthodes qui sont bien classiques en physico-chimie de la matière molle. Alors, il y a plusieurs exemples. Je vais très rapidement vous montrer qu'on peut utiliser tout simplement les défauts topologiques des cristaux liquides, c'est-à-dire que quand vous avez un cristal liquide, en fait, ce n'est pas un monocristal, vous avez des dislocations qu'on appelle des disclinaisons, et on peut utiliser finalement ces défauts comme template pour germiner des structures particulières. Alors, voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, c'est de la silice qui a été faite par hydrolyse d'un alkoxyde de silicium, donc de la chimie douce, en présence d'un tensioactif. Et donc, vous voyez, des formes qui peuvent être obtenues, qui sont relativement complexes et intéressantes. Bon, alors, c'est intéressant au niveau de l'image, c'est beaucoup moins intéressant au niveau du rendement, je dirais que c'est une belle photo, mais de là à sortir des vrais matériaux dans des quantités raisonnables pour en faire quelque chose, c'est une difficulté qu'il ne faut pas négliger. Alors, les figures de respiration, un autre exemple, ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est finalement quand vous faites un brouillard avec... En soufflant finalement sur un verre, vous voyez bien qu'il y a des petites gouttelettes d'eau qui se déposent. Et donc, ce brouillard, finalement, c'est dû à ce dépôt qui est plus ou moins thermalisé par le verre. Mais vous pouvez obtenir d'une autre manière, vous pouvez également obtenir ce genre de matrice mésostructurée. Alors, comment ? Simplement en utilisant, vous voyez, une dispersion de colloïdes, ce que vous voulez, à partir du moment où c'est stable, dans un solvant, un solvant organique. Vous faites un dépôt d'une gouttelette et vous contrôlez finalement la chambre de dépôt, la pression de vapeur d'eau. Qu'est-ce qui va se passer ? Le solvant organique va forcément s'évaporer. Et quand un solvant organique s'évapore, vous avez tous touché le récipient, il est froid. Donc cet échange thermique va permettre finalement de créer un brouillard de gouttelettes d'eau qui va servir de gabarit. Et c'est ce brouillard de gouttelettes d'eau qui va finalement pénétrer le système en cours de séchage. Ça va servir de matrice pour créer une nanostructuration. Alors, sachant qu'au départ, vous aviez des nanoparticules bien calibrées, à l'arrivée, qu'est-ce que vous allez obtenir ? Eh bien, vous allez obtenir des trous bien calibrés qui correspondent aux gouttelettes d'eau qui se sont positionnées sur le substrat et des trous correspondant aux interstices entre nanoparticules, puisque les particules sont parfaitement calibrées. Alors ça donne quoi ? Vous voyez, ça donne des films. Ça, c'est des films à base de chalcogénure et de polystyrène. Vous voyez, des films nanostructurés. Là c'est des typiques. Ce que vous voyez, les trous, là, au niveau de la taille, c'est les trous correspondant au tapis de gouttelettes d'eau qui s'est formé. Avec une autre composition, là, ici, c'est de la sérine, c'est un oxyde de cérium. Même type de concept et de stratégie. Les trous que vous voyez, à l'échelle du micron, ce sont les trous venant en fait du tapis de gouttelettes d'eau, et la porosité de ces matériaux est relativement élevée, puisque dans les murs, ici, vous avez finalement des particules nanométriques, si vous les choisissez nanométriques, qui viennent au contact les unes des autres. Et donc l'interstice entre les particules nanométriques est forcément un interstice de petite taille. Alors, une autre façon d'approcher les aspects chimiques de la matière molle, sol-gel, c'est d'utiliser donc des mousses, en particulier des micro-émulsions, donc de faire des mayonnaises. Donc là, la mayonnaise, c'est un mélange d'huile, d'eau et d'un tensioactif qui est en général un tensioactif biologique, mais dans le cas présent, on peut utiliser à peu près n'importe quel type de tensioactif. Dans la phase aqueuse de la mayonnaise, eh bien, vous allez faire réagir vos précurseurs moléculaires avec des fonctionnalités qui vont être diverses. Donc, la première étape, ça va être de créer la micro-émulsion par broyage mécanique. Et donc, vous allez contrôler la taille de la micro-émulsion en fonction de l'énergie que vous allez fournir au moment du broyage. Et vous allez stabiliser la taille de ces gouttes grâce au tensioactif. Dans la phase aqueuse, eh bien, vous allez avoir la polymérisation de ce genre de précurseur, mais en présence, voyez, également de tensioactifs, puisqu'il y a forcément une partition. Donc vous allez avoir des gouttes de micro-émulsion de mayonnaise qui vont générer en fait des matériaux poreux avec une taille de l'ordre de quelques microns. Et dans la phase aqueuse, vous allez structurer finalement de la matière à l'échelle donc d'hémicelles, beaucoup plus petites, typiquement entre 2 et 5 nanomètres. Alors ça donne, vous voyez, des mousses qui sont facilement, à partir desquelles on peut générer en fait des formes très diverses, vous voyez, que ce soit des cubes ou des sphères, et ces mousses peuvent être également hybrides, mais à nouveau, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand vous regardez de façon intime à l'intérieur du monolithe, la macroporosité est typiquement générée par la micro-émulsion, et à une échelle de résolution plus importante. Les murs sont totalement mésoporeux. Ce que vous voyez ici, ce sont des tout petits trous de l'ordre de quelques nanomètres. Alors l'intérêt, vous voyez, tout ça, ça se fait à des températures très raisonnables, donc ça peut être marié également avec des molécules organiques et l'on peut, vous voyez, utiliser en fait des organosilices avec des fonctionnalités très diverses, mais à peu près, je dirais, la fonctionnalité que vous voulez. À nouveau, ça donne des matériaux de ce type-là. Et donc, ces mousses hybrides, vous voyez tout de suite, ça va être très intéressant parce que ça développe une porosité double échelle. Donc, vous n'allez pas être limité dans les aspects diffusifs, mais vous allez pouvoir quand même confiner une réaction catalytique donnée. Et vous allez pouvoir fixer sur ces molécules de précurseurs, par exemple, des métaux pour obtenir des réactions de couplage carbone-carbone, des acides et des bases pour des réactions de condensation, ou des biomolécules type lipase pour faire de la biocatalyse et obtenir des biodiesels. Donc ça, ce sont des développements et des manips qui sont relativement faciles à faire. Alors à nouveau, en changeant la nature en fait, de la fonction organique, en utilisant par exemple des complexants qui ont une très bonne affinité pour les terrares et les actinides, on va pouvoir générer des mousses hybrides qui peuvent présenter des propriétés intéressantes en adsorption sélective. Alors, on a utilisé dans cet exemple-là plutôt des lanthanides, simplement parce que les actinides posent des problèmes de sécurité au niveau du laboratoire, mais ce sont des systèmes qui adsorbent très bien, finalement, les éléments trivalents. Voyez, donc ce que vous voyez ici, c'est des mousses avec ces complexants-là. Et ici, ce que vous voyez, ce sont les monolithes qui ont piégé finalement des terres rares. Et simplement, pour l'image, je dirais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait émettre la terre rare en l'excitant avec un rayon lumineux. Ces mousses également sont intéressantes puisqu'on peut s'en servir à nouveau de gabarit, c'est-à-dire qu'on peut les infiltrer avec à peu près n'importe quoi et ensuite enlever la silice pour récupérer la forme avec la composition chimique d'un nouveau matériau. Et ce que vous voyez ici, c'est simplement une mousse qui a été incluse avec une résine formophénolique, puis ensuite on carbonise et on pyrolyse la résine pour obtenir maintenant du carbone. Du carbone, vous voyez, en conservant finalement la morphologie de la mousse initiale, mais ce carbone présente également des surfaces spécifiques intéressantes et des porosités double échelle. Et à nouveau, tout ça, c'est associé à des facilités de mise en forme, vous voyez, qui sont relativement remarquables. Et je vous disais, on peut faire à peu près n'importe quoi, puisque là, ce sont des exemples sur carbone, mais également, très récemment, on a démontré que ça pouvait être fait également sur des céramiques de type BN. Alors, dernière façon d'approcher les structures hiérarchiques, donc c'est en couplant finalement la chimie douce, en présence donc de polymères, de polymères sol-gel et de surfactants avec des processus lithographiques. Et ensuite, je vais essayer de balayer quelques exemples basés à la fois sur les méthodes lithographiques, sur l'électrofilage, c'est-à-dire l'extrusion électroassistée, les processus aérosol, etc. Alors le premier exemple, c'est un exemple que j'ai été chercher chez mes collègues allemands, c'est l'utilisation en fait, de la lithographie UV par absorption à deux photons, où en fait on va graver finalement des résines en utilisant en fait, des lasers femtosecondes. Et ces systèmes-là permettent d'obtenir des gravures avec une très jolie résolution. Et le couplage va être intéressant puisque la partie résine qui va être ici, vous pouvez la constituer bien sûr de polymères, mais maintenant vous pouvez utiliser toute la richesse de la chimie hybride et des sol-gels dont je vous ai parlé dans les exposés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des composites à l'échelle moléculaire qui contiennent également des fonctions colorantes, des nanoparticules pour la plasmonique, etc. Et tout ça donc via donc le couplage en fait de ces systèmes de lithographie et des matériaux sol-gel. Alors ici typiquement vous avez en fait un circuit imprimé sur lequel il y a une diode laser et une photodiode donc qui permettent de convertir courant information électrique et optique de façon et vice versa. Et donc là ce que vous voyez ici c'est le bloc en transparent, c'est le bloc de polymère sol-gel fonctionnel. Et donc, via ce genre de technique, on va pouvoir créer un réseau. Ici, on va pouvoir créer un guide d'onde qui va permettre de communiquer entre les deux diodes. Donc, c'est ce que vous allez voir ici. Donc, vous voyez, donc, ce qu'on crée, vous allez voir le changement d'indice puisque vous allez voir le tube passer. Donc là, vous créez finalement ce réseau, vous polymérisez de façon plus conséquente la résine à cet endroit-là pour créer un guide d'onde entre les deux photodiodes. Et donc ça, ça permet, bon ça c'est déjà utilisé au niveau industriel pour créer en fait des circuits imprimés un petit peu avancés. Alors on peut aller plus loin parce que là c'est simplement un guide, vous voyez, qui est synthétisé. On peut aller plus loin et obtenir par exemple, vous voyez, des systèmes beaucoup plus complexes puisque le système de gravure peut être asservi à un ordinateur et dans l'ordinateur vous pouvez avoir une image en trois dimensions et vous allez reproduire cette image en trois dimensions sur un objet de la composition chimique que vous avez choisi. Alors typiquement, là, ce que vous voyez, ce sont des structures un peu plus complexes, de plots, par exemple, qui sont gravées à nouveau dans des phases hybrides, typiquement des ormes Mohser, en utilisant ce type de lithographie, voyez, ou bien des constructions de piles en bois. Vous voyez, le diamètre des piliers est de 200 nanomètres, dans cet exemple, l'espacement de 450 nanomètres. Donc c'est une façon intéressante, je dirais, qui n'est pas encore très développée. Surtout lorsqu'on, si on peut coupler de la jolie physique et de la chimie, on peut vraiment imaginer créer des métamatériaux, des tas de matériaux qui sont un peu à la mode, mais maintenant avec un très joli contrôle. Donc vous voyez, et la résolution actuelle, ce qu'il y a de mieux actuellement, c'est aux alentours de 200 nanomètres. Ce qui est espéré, je dirais, dans les années à venir assez vite, c'est 50 nanomètres. Et là, on peut commencer à faire des belles choses. Bon, des beaux réseaux, on peut faire également d'autres. Il suffit d'avoir une image dans l'ordinateur et on arrive à reproduire à l'échelle, je dirais, micronique et submicronique, à peu près n'importe quel type de motif. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un exemple que j'aime bien parce qu'il montre la force et la puissance à coupler une méthode très physique et bien contrôlée à une chimie, je dirais, beaucoup plus riche et versatile. Alors, on peut utiliser finalement des systèmes à jet d'encre, le système à jet d'encre ou la lithographie également par micropen. Donc ce sont des systèmes qui peuvent être utilisés puisque on peut utiliser en fait des solutions de colloïdes liquides avec des complexités plus ou moins importantes, donc soit par une impression jet d'encre, comme je vous l'ai dit précédemment, pour obtenir, vous voyez, des microplots fonctionnels, je vais vous montrer un exemple, ou bien des plots, je dirais, avec des géométries plus marquées, et également on peut utiliser les techniques lithographiques. Donc en ce qui concerne les techniques jet d'encre, juste un exemple où on va utiliser le jet d'encre classique avec finalement la chimie dont je vous ai parlé déjà un grand nombre de fois, c'est-à-dire des précurseurs fonctionnels, des tensioactifs, donc du savon, de l'eau, etc. Et à partir de cela, je vais pouvoir déposer des plots, voyez, pour faire des matrices de microplots, en déposant un certain nombre de couches. Bon, maintenant, c'est du jet d'encre. Maintenant, je vais jouer sur la chimie. Bon, ça me permet de structurer, puisque j'utilise des surfactants. Chaque plot, vous voyez, présente des porosités. Ça, c'est le cliché de microscopie électronique. Vous voyez des porosités qui sont très joliment et parfaitement calibrées. Mais en utilisant la chimie, maintenant, je vais pouvoir aller choisir sur mesure ma fonction colorante, ma fonction R. Alors ça, c'est ce qui a été fait en collaboration avec les collègues de Montpellier. Vous voyez, je peux utiliser comme fonction, par exemple, des fonctions triazides qui sont connues pour les propriétés très faciles. On peut très facilement, avec ces fonctions-là, faire de la chimie clique en les couplant avec des fonctions alcynes. Et donc ça, c'est une chimie qui se fait à température ambiante avec un rendement de 100%. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc sélectivement, ces plots-là ont été fonctionnalisés dès le départ avec cette molécule-là. Et ensuite, on a fait réagir le colorant. Et vous voyez que le colorant, sélectivement, vient colorer une rangée de plots. Alors, je peux m'amuser à utiliser ce précurseur, mettre un autre colorant rouge. Et vous voyez, là, je vais avoir des colorants avec une rangée de plots verte et rouge. Et je peux aller plus loin, bien entendu, je peux m'amuser. Et donc ça, vous voyez tout de suite ce qui se cache derrière, c'est des nouveaux capteurs, des capteurs multifonctionnels, des nez artificiels, où on peut vraiment jouer sur les fonctionnalités, finalement, des rangées de plots. Alors, une autre méthode qui est utilisée, c'est la lithographie en micropaine. On se sert finalement d'une pointe à FM comme d'un crayon, et on trempe en fait la pointe à FM dans un liquide colloïdal, à nouveau à peu près avec tout ce que vous pouvez imaginer au niveau chimique. Et donc, vous faites des dépôts en utilisant cette pointe à FM. Et donc là, j'ai, pour illustrer ça, j'ai pris en fait un ensemble de travaux qui ont été faits dans une excellente revue d'un collègue italien. Et donc, en fait, vous voyez, si la composition chimique du matériau, c'est de l'étain ou de l'aluminium, en présence de tension actif, je peux faire des rangées avec cette technique de micropeine. Vous voyez, typiquement, l'épaisseur des rangées, c'est de l'ordre de la centaine de nanomètres. La hauteur des motifs sont de l'ordre de 5 à 8 nanomètres. Ça peut être des rangées ou bien des plots. Et lorsque je regarde en fait la nature de ces composites à une échelle, je dirais, plus petite, eh bien, je vois que ces plots sont parfaitement à nouveau poreux et que, selon le choix des systèmes, je pourrais éventuellement les fonctionnaliser. Autre technique, couplage chimie-procédé, qui est en train de monter de façon très importante, qui devient à la mode, puisque les gens commencent à la contrôler de mieux en mieux, c'est ce qu'on appelle l'électrophilage ou l'extrusion électroassistée. Et dans ce cas-là, en fait, on utilise un champ électrique comme vecteur de la fibrillogenèse. Typiquement, on va utiliser une solution à nouveau, tout ce que vous pouvez imaginer, un composite. Ici, vous avez une première électrode, la pointe est la première électrode, et donc la contre-électrode, finalement, elle est positionnée sur le substrat, et donc vous appliquez des champs électriques, vous voyez, de l'ordre de 100 à 500 kV, et ce champ électrique va générer, finalement, une structure fibreuse. Bon, les courants sont relativement faibles, et typiquement, au niveau d'un laboratoire, les distances entre la première électrode et le substrat sont de l'ordre de 10 à 25 cm, vous voyez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir changer finalement également les conditions de procédé au niveau finalement de la contre-électrode et de la forme de la contre-électrode. Et ça va me permettre, vous voyez, de créer des structures soit de fibres en une dimension, soit des systèmes de membranes en deux dimensions, ou bien des systèmes typiquement enroulés en trois dimensions. Donc, en fait, à la fois, je vais pouvoir jouer sur les fonctionnalités des matériaux ici, également sur les aspects procédés pour mettre en forme, finalement, un matériau qui va être déjà relativement complexe, mais vous voyez, avec des formes qui vont être parfaitement ajustées. Alors, ce sont des matériaux qui ont un peu le vent en poupe. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de développements qui se font autour des problèmes de santé, pour créer, en particulier en ingénierie tissulaire, tout ce qui est défense et sécurité, des développements importants dans les matériaux pour l'énergie, l'environnement et également l'ingénierie et biotechnologie. Donc ce sont des matériaux, cette facilité de mise en forme plaît énormément aux industriels et ce sont des matériaux qui sont vraiment très très fortement développés dans les travaux les plus récents. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien on peut faire différentes choses. Ça, ici c'est un exemple, vous voyez, où on a électrophilé des fibres d'oxyde de titane en présence d'un polymère. Et après une réduction carbothermale, vous voyez, on obtient des systèmes fibreux qui sont composés de nanoparticules de magnélie, qui sont des systèmes intéressants pour leurs propriétés de conduction, semi-conduction ou métallique, et qui sont des thermoélectriques et des catalyseurs intéressants. On peut également, voyez, en utilisant les méthodes sol-gel couplées à des tensions actives, obtenir des fibres mésoporeuses ou macroporeuses. Là, c'est typiquement une méthode où on utilise des tensions actives. Ici, on utilise des figures de respiration dont je vous ai parlé précédemment. Donc, ça permet de faire des trous plus gros. Et puis, on peut utiliser des systèmes multibus coaxiaux, voyez, pour obtenir des systèmes cœur-couronne, des systèmes qui sont beaucoup plus complexes. Donc, à nouveau, on peut coupler toute la richesse de la chimie dont je vous ai parlé précédemment et ces procédés où il y a une forte demande, je dirais, au niveau industriel. Il y a également à mettre énormément de connaissances au niveau scientifique sur le couplage procédé, sur l'évolution de ces matériaux en les suivant in situ. Pour l'instant, il n'y a aucune étude là-dessus, mais je pense que ça fera partie, je dirais, des challenges à développer au niveau du laboratoire. Alors, par exemple, quels sont les résultats que l'on peut obtenir? Vous voyez, ça, ce sont des membranes protoniques pour la conduction protonique qui sont des composites. Alors là, je vous fais grâce de la composition chimique, où il y a à la fois un polymère qui a des propriétés mécaniques qui est hydrophobe, des composantes de silice hybride où il va y avoir des porteurs de charge, des matériaux pour assurer des interfaces. Donc, a priori, ce sont des matériaux très, très compliqués à faire, mais grâce à l'électrospinning et au contrôle à la fois de la chimie et procédé, ces systèmes peuvent être obtenus de façon très reproductible. Et alors, quand on regarde la structure de ces matériaux, ce que l'on voit, c'est qu'ils sont constitués de réseaux de fibres, un peu comme un espèce de ciment armé. Et donc, vous avez des fibres de polymère, qui est un polymère fluoré, PVDF-HFP, qui sont gainés par des gaines en fait, conductrices de silice, conductrices de protons. Donc ça, c'est la structure de ce genre de matériaux. Et maintenant, quelles sont les propriétés? Parce qu'in fine, un matériau, ça doit avoir des propriétés intéressantes. Alors voilà, quand vous comparez, pour les mêmes compositions, des matériaux faits par électrospinning et les matériaux faits par simple dépôt de membrane par séchage, voyez ici, ce qui est reporté, c'est la conductivité ionique en fonction, pour une température de 80 degrés, en fonction du taux d'humidité. Typiquement, la membrane classique, je dirais, se comporte, voyez, avec des propriétés de conduction qui sont très moyennes. Quand on regarde maintenant les propriétés mécaniques, elles sont assez médiocres. La membrane en rouge ici, c'est la membrane obtenue par électrophilage. Vous voyez déjà qu'elle est au niveau de la conduction des meilleurs nafions, de ce qu'il y a de meilleur sur le marché, avec des propriétés mécaniques à 120 à 60 degrés qui sont bien au-dessus des matériaux, je dirais, commerciaux. Et bon, récemment, ce que l'on montre, c'est que non seulement on gagne énormément sur la mécanique, mais on se retrouve maintenant avec des données, je dirais, au niveau de la conductivité qui commencent déjà également au-dessus au niveau de la qualité et des conductivités ioniques. Donc, les couplages chimie-procédés, c'est quelque chose d'important dans le domaine des matériaux. Ma dernière série d'exemples concerne les procédés aérosols. Ça, vous connaissez tous ce que c'est, un procédé aérosol, ceux qui se mettent de la laque dans les cheveux le matin, donc c'est simplement un spray. Alors, à nouveau, la richesse du système en spray, c'est la richesse parce que l'on peut coupler ce système avec une solution de type sol-gel composite et une chimie très très riche à partir du moment où c'est stabilisé en fait cette dispersion colloïdale. À peu près ici, vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez avoir dans la tête. Et donc ça permet de déposer, vous voyez, en utilisant finalement un aérosol, un système qui permet de polymériser le système, typiquement un système avec un chauffage. Ça peut être un four, mais ça pourrait être un sèche-cheveux, je dirais. Et vous pouvez déposer des systèmes sous forme de particules, de films, ou bien des systèmes micro ou macro structurés. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais vous montrer quelques exemples sur les particules, mais il faut, voyez, tout ce domaine en fait, du spray coating et donc des dépôts aérosols avec des compositions variées, très clairement, en fait, c'est un domaine où il y a des potentialités qui sont énormes, parce que c'est simple, Ça permet de faire des dépôts fonctionnels de tous les types, avec des épaisseurs variables, etc. Donc c'est un domaine qui commence à être développé au laboratoire, mais qui est vraiment, je dirais, encore dans son enfance. Alors au niveau donc, des matériaux sous forme de poudre, à nouveau, je vous disais, la richesse en fait, des compositions chimiques. C'est-à-dire qu'ici, on peut imaginer ce que je veux, c'est-à-dire des précurseurs, des nanoparticules, des tensioactifs, pour obtenir, vous voyez, des systèmes plus ou moins compliqués, avec des structures plus ou moins hiérarchiques. Voyez ce que ça peut donner, par exemple. Ça, ce sont des combinaisons de sol-gel, de particules mésoporeuses, avec des latex que l'on a ensuite enlevés pour faire les trous. Voyez, donc on peut obtenir des matériaux assez intéressants au niveau de l'esthétique, mais également très intéressants au niveau des fonctionnalités. On peut également, à nouveau, jouer sur la nature des polymères, ajouter, comme je vous le disais au départ, des nanoparticules à peu près de tout type, des tensioactifs pour obtenir, voyez, des matériaux qui vont être multi-échelles, avec des mésopores, des tailles de gouttes qui peuvent être ajustées dans un domaine, je dirais, de 250 nanomètres à quelques dizaines de microns. Ici, ce que vous voyez, finalement, c'est l'empreinte d'un latex. Hein. Donc, ces particules peuvent être hiérarchiques au niveau de la structure, mais également, elles peuvent être fonctionnalisées avec des nanoparticules, qui peuvent être des nanoparticules pour l'imagerie, ou des nanoparticules qui peuvent servir de catalyseur. Donc là, c'est votre imagination qui doit être mise en route. Vous pouvez imaginer une très large plage, en fait, de matériaux nouveaux. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est justement sur ces particules, elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce que finalement, vous n'êtes pas limité par la diffusion. Ça, ce que vous allez voir, c'est une image en 3D reconstituée de coupe d'une particule. Alors vous allez voir qu'il y a une continuité du début à la fin, quelle que soit la coupe. Alors les particules d'or, en fait, c'est les particules noires, c'est simplement pour servir en fait à calibrer au niveau de la géométrie. Vous voyez, il y a eu un système qui est continu, le système continue au niveau de la diffusion. Donc ces matériaux-là vont être très très intéressants pour des applications en catalyse ou comme vecteur thérapeutique. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut balayer comme composition? Des silices, des alumines, des systèmes mixtes. On va jouer, dans ce cas-là, on va essayer de jouer justement sur les hétérogénéités de positionnement des différents cations pour donner soit de la stabilité aux matériaux, soit pour créer une propriété plus acide. On peut également, puisque le système, vous avez vu, il y a eu un moment dans le procédé, il y a un four qui permet de tremper le système, mais ce qu'il faut voir, c'est que le temps de passage est très court en fait, du matériau dans la partie four. Ce qui veut dire que même si vous êtes à quelques centaines de degrés, typiquement à 200 degrés, eh bien, ces systèmes sont compatibles avec de la matière organique. C'est-à-dire que vous pouvez directement obtenir des matériaux hybrides sous forme aérosol. Alors ça peut être bon pour des matériaux pour la catalyse, ou bien vous pouvez implémenter des fonctions acides pour faire des conducteurs ioniques, par exemple. Et donc tout ça reste stable parce que le temps de séjour dans la partie chaude du procédé est relativement courte. Et elle peut encore, je dirais, être modulée en fonction de l'ajustement. L'intérêt, à nouveau, je vous disais, c'était d'inclure dans ces matrices poreuses ou qui ne sont pas limités au niveau diffusionnel, différents types de métaux, ça c'est intéressant pour la catalyse, catalyse multifonctionnelle, puisqu'on peut y mettre différents types de métaux. Le mur lui-même peut avoir des propriétés catalytiques, également des vecteurs thérapeutiques, avec des molécules, je dirais, pour l'imagerie, RMN ou optique, et également des surfaces poreuses qui sont énormes, donc qui permettent d'accueillir des quantités de principes actifs relativement conséquentes. Alors, juste un exemple pour terminer, c'est l'exemple de catalyseurs qui ont été développés très récemment au laboratoire, où on utilise finalement, vous voyez, des précurseurs conventionnels. Ce sont des précurseurs de molybdate dans l'eau avec des sels d'aluminium et des précurseurs d'oxyde de silicium, des tensioactifs. On fait donc procéder à aérosol une étape de calcination, on obtient des matériaux qui sont des matériaux classés dans super microporeux à cause de leur porosité qui est juste à la limite, à la charnière entre les microporeux et les mésoporeux, typiquement 2 nanomètres, des surfaces spécifiques intéressantes. Mais maintenant, ces systèmes-là permettent justement de répartir de façon très contrôlée les centres catalytiques. Et les centres catalytiques dans la réaction de métathèse des olefines, ce sont des composés à base de molybdène. Alors, voyez ce que l'on obtient sur l'activité spécifique dans le cas d'une réaction de métathèse assez simple, éthylène plus butène donne propène. Ça, ce sont les catalyseurs industriels de l'IFP, avec des modes, je dirais, d'imprégnation habituels. On charge un catalyseur, on le calcine, etc. Voyez la réponse. Et ça, ce sont les catalyseurs faits par voie aérosol. Donc, à nouveau, je dirais, dans ce cadre-là, les procédés aérosol permettent non seulement d'obtenir des matériaux avec des surfaces spécifiques intéressantes, mais également avec des répartitions, je dirais, chimiques, des constituants qui sont particulièrement efficaces. Alors, pourquoi, en fait, on s'excite autant, ou je m'excite au moins, tout du moins, sur les aspects structuration, contrôle, en fait, de l'échelle nano et mésoscopique, ce sont quand même des thèmes qui sont assez difficiles. Bien entendu, chimiste des matériaux, on veut tous développer des nanomatériaux et des nanotechnologies qui touchent à des domaines assez variés, l'énergie, l'environnement, la médecine, l'optique, l'électronique. Alors bon, il y a des domaines qui sont intéressants pour les financements, puis il y a des domaines qui sont très motivants au niveau humain, en particulier, la médecine et l'environnement, ou autres. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a également des paris, des challenges intéressants. Vous voyez, je vous prends simplement un exemple bien connu, c'est celui d'une tête de lecture d'un disque dur. Elle plane, vous voyez, à une distance de 20 nanomètres au-dessus du disque qui tourne à 30 mètres par seconde. Donc, si je reprends, en fait, si je regarde l'échelle de taille entre cette tête de lecture et un Boeing 747, ça va donner quoi ? À quel niveau il faut qu'on arrive à contrôler justement ces nanostructurations ? Je vous l'ai montré en combinant des approches physiques et des approches chimiques. Eh bien, ça vient, le niveau, c'est celui-là. C'est tout simplement époustouflant. Ça voudrait dire qu'on arrivera à contrôler le vol d'un Boeing 747 à 1 cm de la surface de la Terre. On est encore loin. Vous comprenez que les paris sont particulièrement importants. Donc, le message de mon exposé final, ce sera, bon, je pense qu'on a terminé avec les petites guéguerres habituelles entre la physique et la chimie, et qu'il est vraiment important de développer des matériaux à l'interface entre la physique et la chimie, en couplant évidemment toute la connaissance qui est assez riche du côté des chimistes et la connaissance assez forte des moyens de nanostructuration que connaissent les physiciens. Alors, en particulier, le séminaire qui va suivre, je vous présente donc l'orateur, qui est Dominique Mailly, donc qui est directeur de recherche au CNRS, qui est également directeur du laboratoire donc, du LPN à Marcoussis, qui était une unité mixte CNRS, qui est très, très connue dans le domaine des nanostructures et des nanostructurations. Donc, Dominique a été ingénieur de l'école supérieure de Supélec, donc, puis docteur, vous voyez, de l'université de Paris 11. Ensuite, on s'est connu lorsqu'il était en stage postdoctoral à l'université de Berkeley, donc c'est une très ancienne connaissance, et il a développé, vous voyez, de la physique très intéressante, que ce soit du côté du magnétisme de l'hélium, ça c'est ce qu'il faisait à Berkeley, de la nanofabrication, des nanostructures, et maintenant, donc, depuis donc, une dizaine d'années, il a créé un groupe de physique et technologie des nanostructures. Donc voilà, il est également médaillé d'argent du CNRS 2002 et je vous fais grâce en fait de sa production scientifique qui est de très grande qualité et à la fois en quantité et en qualité qui est remarquable. Donc voilà, je vais arrêter ici mon exposé et on va se donner 5 petites minutes de coupure pour ceux qui le désirent ou même si vous avez quelques questions, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.